Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Cher Rémi, cher ami, cher Gilles, cher camarade, j'ose dire, je saluerai tout à l'heure monsieur le sénateur, directeur de l'humanité, Fabien Gay, qui va nous rejoindre en cours de matinée. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement fier ce matin en tant que président du département de la Haute-Garonne, en tant aussi que socialiste, d'ouvrir ce colloque Jean Jaurès sur ces thèmes universels de la guerre et de la paix. Jean Jaurès, on le sait, a consacré beaucoup de temps à lutter pour la paix, à ce qu'il appelait lui-même la paix véritable. Il incarne pour nous, j'ose dire également, ses héritiers, une certaine idée du pacifisme, non pas un pacifisme dogmatique qui refuse l'usage de toute violence, mais plutôt un pacifisme comme idéal, en ce qu'il accepte de faire la guerre pour sauver la paix. Comme il le disait dans son discours à la jeunesse, je ne vous propose pas un rêve idyllique et vain. Trop longtemps, les idées de paix et d'unité humaine n'ont été qu'une haute clarté illusoire qui éclairait ironiquement les tueries continuées. Forme d'analyse très lucide, finalement, de ce que sont les ressorts de la guerre, de ceux qui la projettent pour envoyer des troupes au front. Jaurès ne rejetait pas la guerre par principe. Il refusait la guerre de conquête et d'oppression des peuples par l'embrigadement. La seule guerre admissible, d'ailleurs, pour les démocraties, est celle qui comporte un devoir d'humanité, celle qui devient une arme pour défendre les valeurs communes à l'humanité tout entière, celle qui est le dernier moyen de combattre l'ivresse de conquête et la terreur des États nationalistes. Éclairés aujourd'hui par les historiens et les philosophes, nous sommes en tant qu'élus, élus locaux, mais élus nationaux, en tant que responsables politiques, en responsabilité politique majeure, pour porter ce combat des démocraties, ce combat des démocraties encore aujourd'hui, face à la volonté de reconquête de certains, et aussi pour porter ce qu'on pensait acquis, ce que certains d'ailleurs qualifiaient comme la fin de l'histoire, et finalement ce que nous devons porter chevillé au corps, les valeurs, les libertés. L'actualité des conflits internationaux fait forcément écho presque par anticipation lorsque nous avons pensé ce colloque, l'actualité de tous les conflits. Conflits sur l'ensemble des continents, conflits armés, qu'ils soient portés par des milices politiques ou des groupes terroristes. Ces conflits sont engendrés, on le sait parfois, par l'absence d'institutions démocratiques, étatiques, fortes, souvent aussi par ce que l'on connaît, l'absence de répartition, l'absence de solidarité, ce qu'on peut qualifier de pénurie des ressources élémentaires pour des vies dignes pour certains. Également par d'autres causes qu'on ne connaissait pas par le passé, le changement climatique, qui pousse des peuples à se confronter pour accéder aux ressources élémentaires. Cela nous prouve à quel point cette pensée jaurésienne sur la guerre et la paix reste plus que jamais une boussole. Il n'y a qu'une race, l'humanité, écrivait-il. Face aux démocraties en danger, c'est bien l'humanité tout entière, finalement, qui est en danger dans ce qu'elle a d'intrinsèque, d'universel. Notre pays, la France, se relève avec peine d'une crise pandémique sans précédent qui a bouleversé en quelque sorte l'ordre mondial. On le voit en France. Je le vois, moi, en tant que président de ce département, chef de file des solidarités humaines. Je le constate chaque jour. Les conséquences économiques et sociales engendrent un repli, des peurs, des angoisses. Un repli sur soi, très dangereux. Un repli à la fois qu'on peut qualifier parfois de communautariste, mais aussi son nouveau pendant, de nationaliste. qui fragilise le rapport aux politiques et qui ébranle jusqu'à nos fondements, même de notre République. À ce titre, je suis toujours prudent sur les enquêtes d'opinion, mais il faut quand même analyser l'état actuel de l'opinion dans ce contexte très fortement émotionnel. Les résultats de la dernière enquête massive OpinionWay sur l'état de l'opinion de la France, près de 8000 sondés, intéressants à analyser, pour Le Parisien en octobre dernier. Ça doit nous interpeller, en tout cas ça m'interpelle. Ça nous fait réfléchir, tous ensemble, chercheurs, historiens, le travail que vous faites, ça doit nous enrichir, philosophes aussi, au rapport au monde que nous voulons laisser à nos enfants. Selon cette enquête, les Français sont prêts à soutenir des mesures fortes en faveur de la sécurité, quitte à rogner les libertés publiques. Et c'est cela qui est inquiétant. Quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de tout ce sondage, mais sur ces aspects-là, c'est particulièrement notable. 82% sont favorables à des caméras de sécurité placées dans l'ensemble des lieux publics. L'ensemble. 77%, et c'est plus dangereux, à des systèmes de reconnaissance faciale pour détecter les criminels et les délinquants, mais enfin prêts à l'accepter dans leur quotidien, partout. 52% favorables au retour de la peine de mort. 45% à la création de ce qui était qualifié dans le sondage de milices citoyennes. La sécurité, première des libertés. Cette vieille enseigne a fini par infuser la société. C'est un piège idéologique, dans lequel nous, les partisans du socialisme de Jaurès, nous ne devons pas tomber. La sécurité est essentielle, essentielle à la prévention, et donc à la préservation de notre socle républicain, évidemment. Mais elle n'est pas pour autant la première des libertés. En revanche, la première sécurité, c'est bien la liberté. Aucun État démocratique ne peut accepter que les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité enfreignent les libertés. Alors je le dis, face à l'escalade des populismes, face au fanatisme de tous ordres, face aux attaques du terrorisme, alors porte-voix et nœuds, nous ne devrons jamais baisser les bras, ni nous taire. Sans relâche, nous devons affirmer et défendre les valeurs républicaines. Dans ses principes, dans son humanisme, dans son universalisme, on le sait, le chemin va être long. Mais notre volonté doit être ferme. Je terminerai avec ces mots. Je n'ai pas pour habitude de longuement citer, contrairement à mon prédécesseur, pour finalement une très grande partie d'entre vous qui l'avait fréquenté, côtoyé encore et connu particulièrement. Mais ces mots de Jaurès à la jeunesse sont intéressants dans ce qu'ils sont d'actualité. Comme l'histoire a donné le dernier mot à la République, si souvent bafouée et piétinée, elle donnera le dernier mot à la paix, si souvent raillée par les hommes et les choses, si souvent piétinée par la fureur des événements et des passions. Je ne vous dis pas, c'est une certitude toute faite. Il n'y a pas de certitude toute faite en histoire. Mais je sais qu'il y a vers la paix des tendances si fortes, si profondes, si essentielles qu'elles dépendent de vous, par une volonté consciente, délibérée, infatigable, de systématiser ces tendances et de réaliser enfin le paradoxe de la grande paix humaine, comme vos pères ont réalisé le paradoxe de la grande liberté républicaine, œuvre difficile, mais non plus œuvre impossible. Oui, ces mots résonnent encore, finalement. Je me dis souvent, face aux grands défis de la liberté, de la démocratie, du changement climatique aujourd'hui, et finalement de la lutte contre les inégalités. Finalement, la lutte contre les inégalités a été longtemps ce qui a clivé la politique, ce qui a fondé les combats de conquête de droits sociaux. Aujourd'hui, je reste intimement convaincu que c'est la ligne de partage se fait sur la lutte contre le changement climatique. Nouvelle fracture de la lutte des classes. lorsque 1% de l'humanité pollue plus que 50% du reste de l'humanité. Ça doit nous interroger. Et je me dis que si l'humanité avait confiance en elle-même, avait conscience de ses capacités, par son universalisme, de redresser ses défis, si elle se faisait confiance, beaucoup de replis ne seraient pas effectifs. Beaucoup de défiance les uns envers les autres serait inefficace. Beaucoup d'appels à la haine seraient réduits à néant. Cette confiance, celle que finalement Jaurès appelait par cette longue marche, cette longue tendance vers la paix, pourrait nous insuffler si les démocrates repensaient l'internationalisme, repensaient les grandes causes à promouvoir, quel que soit leur niveau d'engagement, quel que soit leur positionnement, quel que soit finalement leur combat du quotidien. Oui, je crois beaucoup à l'universalisme. Il va falloir le porter fortement dans les temps que nous traversons déjà aujourd'hui, mais dans les temps qui vont à venir. Alors ce colloque, s'il a été prévu par anticipation, doit éclairer aujourd'hui notre actualité, mais surtout doit nous interroger. Je ne doute pas que vous deux, experts de la pensée jaurésienne, vous allez peut-être contredire à mes propos, les accentuer. Mais en tout cas, ce débat doit nous forger sur des messages hors de ces murs. Se faire plaisir entre nous sur le passé est toujours intéressant pour sa culture personnelle. Mais il doit nous éclairer dans ce que nous faisons dans notre quotidien, dans nos actes du quotidien. Aujourd'hui, je crois que tous ceux qui sont les amoureux de l'humanisme, ceux qui ont le goût des autres, vont devoir l'exprimer, parce que les tendances sont lourdes au repli sur soi, à la haine du voisin. Et on le sait, ça n'amène que la belligérance, que la querelle. Et on le sait maintenant, peut ramener des guerres de tranchées, peut ramener des guerres de position, en envoyant des jeunes, en envoyant des non-militaires sur des lignes de front. On l'a vu, on le voit, on le vit aujourd'hui aux portes de l'Europe, et on le voit aussi sur le repli identitaire, sur le repli communautaire. Ça amène aussi du conflit qui est le pire, celui du terrorisme, celui qui n'a aucune règle, celui qui ne respecte aucune part d'humanité. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, je nous souhaite un bon colloque, mais surtout, portez les messages qui vont être dits ce matin, à l'extérieur, auprès de vos voisins, auprès de vos familles. On va en avoir besoin, beaucoup, et le chemin va être long. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, cher Sébastien, je te remercie de ce discours d'une haute élévation de pensée, j'ai trouvé, et finalement à la fois lucide, mobilisateur et en définitive optimiste, puisque tu as tracé un chemin de paix auquel, je pense, cette journée va pouvoir participer. Et tu as marqué aussi l'utilité des historiens, mais on a regroupé aussi des journalistes, des politologues, d'autres spécialités aujourd'hui. Mais nous avons besoin des politiques, surtout de ceux qui gèrent au quotidien la vie de ceux qui les ont mandatés, mais qui ne perdent pas de vue ce que tu as dit, l'humanisme, l'universalisme, je crois que c'est ça. Alors, cette journée intervient le jour même ou le lendemain d'une éclaircie ou en tout cas d'un signe de, je dirais pas d'apaisement, mais de diminution de tension au Proche-Orient. Et nous sommes émus par cette libération d'otages et de prisonniers, d'otages d'un côté du Hamas et de prisonniers d'Israël de l'autre. Certes, nous soyons lucides, ce n'est pas quelque chose de définitif, cette trêve. Mais enfin, je trouve que c'est un signe du destin que notre colloque a lieu aujourd'hui. et peut-être de l'espoir. Bon, si je vais faire une citation de Jaurès, son fameux discours de 1905 qu'il n'a pas pu prononcer à Berlin, qui était prévu, ce qui était prévu, mais il a quand même diffusé. Et il y a cette phrase. « Une des beautés de la diplomatie, c'est qu'on ne sait jamais avec certitude à quel point elle met en péril les peuples qu'elle a mission de sauver. » Je crois que les diplomates qui se démènent actuellement pour essayer d'empêcher cette catastrophe extraordinaire qui s'est déroulée, songeant que les habitants de Gaza ne peuvent même pas enterrer leurs morts, c'est quelque chose d'épouvantable et qui nous émeut infiniment. Et ce sentiment d'impuissance que nous ressentons, évidemment, est une raison supplémentaire de réfléchir. Je vais laisser la parole à mon ami et mon cher Gilles Candard, qui est le président de la Société d'études jaurésiennes nationales, dont nous sommes sinon l'émanation, mais notre association, les Amis de Jaurès à Toulouse, est une sœur. Je crois que nous sommes liés intimement. D'ailleurs, Gilles est membre de notre association, qu'il suit très fidèlement. Ici même, d'ailleurs, nous avons eu un débat aussi en association avec l'UMA, et la brochure qui a été éditée nous laisse espérer que cette journée d'aujourd'hui sera également l'objet d'une publication. Alors Gilles, si tu veux prononcer quelques mots avant que nous demandions aux intervenants de la matinée de monter sur l'estrade.
Merci à toi Rémi, bonjour à tous, je suis très heureux effectivement de revenir pour ce colloque. Nous en avons déjà eu un, nous en avons d'autres. J'ai été aussi très sensible à l'allocution du président et à ce que tu viens de dire. Quelques mots que je pourrais ajouter. D'une part, pour vous donner peut-être des nouvelles du travail des historiens, puisqu'il y a été fait allusion au fait que la cause de la paix devait mobiliser toutes les énergies, celle des politiques, mais aussi bon celle des citoyens. Il faut que les gens s'impliquent, et les chercheurs, disons, qui ont à travailler, qui ont à publier, à présenter leurs travaux. Donc c'est peut-être l'occasion de dire qu'alors que nous nous réunissons, la Société d'études jaurésiennes arrive au terme d'un travail engagé depuis longtemps, celle de la publication des œuvres de Jaurès, un projet qui était né d'ailleurs après la mort de Jaurès, qui avait été porté par l'ancienne association des Amis de Jaurès, dont finalement les Amis de Jaurès à Toulouse, comme nous, Société d'études jaurésiennes, nous sommes un peu les petits-enfants et les petites nièces. Donc nous avons une édition des œuvres de Jaurès en 17 volumes, dont l'Humanité rencontre régulièrement, volume après volume. L'Humanité est d'ailleurs le seul média à avoir rendu compte de chacun des volumes. Donc c'est l'occasion de dire tout l'intérêt qu'il peut y avoir aussi à suivre et à lire ce journal. Eh bien, le 17e volume, qui n'est pas le tome 17, parce que les tomes 17 et 16 sont déjà parus, mais qui est le tome 15, et qui s'intitule, donc ça tombe bien avec notre colloque, « Guerre à la guerre ». Guerre à la guerre, qui est le grand mot d'ordre du congrès de l'international à Bâle, à l'occasion du grand discours de Jaurès en la cathédrale de Bâle, qui a été prêtée par le clergé protestant de la ville, avec sa célèbre exhortation, où il est, lorsqu'il évoque les cloches avec l'inscription décrite par Schiller, Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango, j'appelle les vivants, je pleure sur les morts, je briserai les foudres. Et il y a évidemment, après il réfléchit pour dire bon, j'appelle les vivants, je pleure sur les morts, il évoque les guerres des Balkans, et puis la grande interrogation, c'est est-ce que on peut briser les foudres de la guerre. Il avait déjà utilisé cette image dans le discours de Berlin auquel Rémi vient de faire allusion, en disant bien que l'international, le prolétariat, les forces de paix n'étaient pas encore prêtes. À Bâle, il estime que ces forces ont fait des progrès, mais tout en maintenant, de point d'interrogation, dérogation, et il fait bien de le maintenir, puisqu'on sait que ça ne sera pas suffisant pour empêcher les catastrophes du XXe siècle, dont nous ne sommes pas encore tout à fait sortis. Mais ces combats sont toujours évidemment intéressants à revisiter, retravailler, reméditer, et avec ce tome ultime qui paraît ces jours-ci, eh bien, nous espérons pouvoir y contribuer. Et puis, en écoutant le président Vancini, il a fait plusieurs fois allusion au discours à la jeunesse qui a été prononcé devant les lycéens d'Albi en 1903. Et là, je peux signaler par anticipation que nous allons avoir prochainement la première édition australienne de ce discours, puisque je viens d'écrire quelques mots de préface. Donc ça prouve effectivement que ce message de Jaurès, vous voyez, n'est pas oublié, puisque dans un pays aussi éloigné que l'Australie, il y a je ne dis pas que ça va être une édition de masse, mais enfin il y a des petits éditeurs pensent toujours à publier et à faire connaître ces textes de Jaurès pour la paix. Voilà, donc ça, ce sont deux nouvelles récentes que je voulais vous donner. Sinon, pour ma part, j'aimerais dire, insister sur le fait que le chemin de la paix, le pacifisme de Jaurès, comme le disait Sébastien Vincini, ce n'est pas un idéal dogmatique. Je dirais, on le voit souvent sous l'angle du sentiment, de la passion. C'est juste, il y a de cela chez Jaurès, évidemment. C'est fondé sur son humanisme. Mais je trouve qu'il faut aussi bien explorer ce que nous pourrions appeler la politique de la paix engagée par Jaurès. C'est une démarche rationnelle, c'est une démarche, disons, intellectuelle, construite, et c'est important, disons, de l'analyser pour voir justement ce qui peut nous inspirer encore aujourd'hui. Jaurès, en quelque sorte, va vers la paix comme stratégie politique, et il réfléchit aux conditions qui peuvent amener ces pays, sur quelles forces on peut compter. C'est une stratégie d'ailleurs assez complexe, assez fine, qui fait appel à la fois à l'action politique internationale du prolétariat sous la forme de l'internationale socialiste dont nous allons parler tout à l'heure, qui fait appel aussi à d'autres forces intellectuelles et morales qui espèrent fédérer. Et disons, c'est toute une stratégie politique qui me semble intéressante d'interroger aujourd'hui, surtout que, par exemple, un de ces aspects peut-être les plus modernes et, comment dire, qui ont dû être les plus dérangeants pour Jaurès, c'est qu'il réfléchit aussi à l'articulation entre la nation, la fédération des nations et l'État. C'est le moment, disons, d'avant 1914, où on commence à s'interroger en France, où on s'est construit autour d'une nation-État constituée de longue date, sur l'universalité de cette notion. Est-ce que tous les problèmes mondiaux peuvent se résoudre par la construction d'un État-nation ou pas? Est-ce que cette formule, je m'arrêterai là, est valable pour les Balkans, où sont enchevêtrées plusieurs nationalités? Est-ce que c'est valable aujourd'hui pour le Caucase, où les problèmes sont les mêmes, et en Palestine, dans la situation actuelle, je ne parle pas de la situation du temps de Jaurès, mais dans la situation actuelle, comment peut-on imaginer un chemin de paix avec un peuple palestinien, un peuple israélien? On parle beaucoup de la solution parfois à deux États, mais dans ce cas-là, avec quel rapport entre les deux États? Certains parlent d'un État binational, mais comment assurer la coexistence des deux nationalités? Donc le début de réflexion qu'il y a chez Jaurès et dans l'international socialiste avant 1914 sur la difficulté et la nécessité peut-être de penser à un avenir où on découple les deux notions me paraît quelque chose, disons, de nécessaire à opérer j'espère que notre rencontre va, disons, permettre d'apporter quelques lumières pour la réflexion des citoyens. Bon, voici les quelques mots que je voulais juste ajouter. Pour commencer notre travail, disons, de manière plus concrète, il faut que Rémi Pêche est déjà présent, mais il faut que Sylvain Venner, Rémi Casals et Nadine Picaudou nous rejoignent. Donc, il y a un seul chemin qui est possible, qui est par ce versant hein, de l'estrade. Nous venons de l'expérimenter avec Rémi. Et puis peut-être alors, en tant que co-président, rappeler que la règle est de 20 minutes par personne. Et comme disons que l'équité doit toujours être un petit peu modulée, on peut déjà prévenir que pour la dernière intervention, il est prévu un bonus, c'est cela.
Oui.
Hein, voilà.
Voilà. Alors la distribution du colloque, pour ceux qui ont en main les résumés, vous verrez que la matinée est surtout consacrée aux problèmes largement passés. Et nous avons voulu ainsi inscrire dans la longue durée cette histoire des conflits et de la recherche éperdue de la paix véritable. Et alors donc, je vais donner la parole à Sylvain Venner, professeur, mon collègue professeur à l'Université de Grenoble, et que les Toulousains connaissent, puisqu'il a participé au festival Histoire et Avenir, qui est organisé par la librairie Ombre Blanche et des amis professeurs de l'Université Jean Jaurès. Et donc, Sylvain Venner a publié très récemment dans la prestigieuse collection Gallimard Essai « Les guerres lointaines de la paix », titre qui m'a un peu déconcerté au début, je vous l'avoue, Sylvain. Mais vous ayant écouté et vous ayant lu, j'ai compris. J'ai compris que des conflits qui peuvent paraître marginaux ou très éloignés, ne menaçant pas les citoyens de l'Europe, par exemple, peuvent très bien dégénérer, préfigurer, servir à la fois de détonateur et puis d'entraînement à des guerres beaucoup plus meurtrières et beaucoup plus scandaleuses par les dégâts qu'elles commettent dans la vie quotidienne et dans l'esprit aussi des citoyens. Donc ce livre, Les guerres lointaines de la paix, aurait suffi à justifier la présence de Sylvain Venner ici, et donc je lui laisse la parole.
Bon, alors j'ai 20 minutes pour présenter une réflexion sur l'opinion publique européenne et les guerres lointaines. C'est mission impossible, évidemment, et pourtant c'est une mission importante. C'est peut-être une mission utile dans les temps que nous vivons. Alors autant le dire tout de suite, alors que nous sommes tous profondément troublés par les atrocités commises dans le sud d'Israël par les combattants de la branche armée du Hamas le 7 octobre dernier, par la brutalité de la réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza, et peut-être à cause de ce trouble d'ailleurs, je n'évoquerai pas ce que les journaux appellent la guerre du Hamas et d'Israël. Et pour trois raisons qui me permettront peut-être paradoxalement d'introduire mon sujet. La première, c'est que depuis les lendemains de la guerre des six jours, le terrorisme a été un des moyens utilisés pour défendre la cause palestinienne sur le territoire même de l'Europe. On a en mémoire la prise d'otage des athlètes israéliens les 5 et 6 septembre 1972 lors des Jeux Olympiques de Munich. La deuxième, c'est que vit en France une importante communauté juive, la troisième du monde même, et qu'un grand nombre de nos compatriotes sont d'origine arabe. Et pour ceux qui voient dans le conflit israélo-palestinien une lutte globale des juifs et des arabes, ça compte. Et la troisième, c'est que les Palestiniens ont été constitués depuis longtemps en Europe, et singulièrement en France, comme l'incarnation du peuple spolié. Depuis la fin des années 70, certains Européens, pas forcément d'origine arabe, se sont mis à porter des keffiyehs palestiniens pour montrer qu'ils soutenaient ceux qui n'ont rien. Et là encore, pour ceux qui voient dans le conflit israélo-palestinien une lutte globale des pauvres contre des riches, ça compte également. Depuis les années 70, chaque guerre impliquant Israël et les Palestiniens s'est ainsi accompagnée sur le sol européen de manifestations d'antisémitisme, voire plus récemment d'islamophobie. Tout ça fait que le conflit israélo-palestinien, même s'il se déroule hors de l'Europe, n'est pas tout à fait une guerre lointaine comme les autres. Et à son propos, s'il y a un vieux nom qui a conservé un certain sens, c'est bien celui de Proche-Orient. Dans le cadre de cette brève réflexion, moi je souhaiterais me limiter au contraire aux guerres lointaines, c'est-à-dire aux guerres dont les sociétés européennes ne font pas l'expérience directe. Ces guerres qui ne nous engagent pas, ni nos familles. Ces guerres dont on ne souffre pas, qu'on ne voit pas de nos yeux, mais qu'on connaît malgré tout, qu'on comprend malgré tout, qu'on éprouve malgré tout, du fait de leur médiatisation, bien sûr, mais aussi du fait de notre dignité de citoyenne et de citoyen, c'est-à-dire d'individus que leur responsabilité politique et morale invite à penser ces guerres, quand bien même elles n'auraient pas de conséquences immédiates sur nos vies quotidiennes. On peut avoir le sentiment que cette question est redevenue brûlante depuis le 24 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En réalité, elle se pose à propos de l'Ukraine depuis au moins 2014. Elle se pose à propos de la Syrie depuis 2011. Elle s'est posée à propos de la Yougoslavie et du Rwanda dans les années 1990, à propos du Cambodge dans les années 70, et à propos de bien d'autres lieux du monde à bien d'autres époques. Comme le formulait l'écrivain Jean Guéhenno dans les années 30, je le cite toujours, « En quelque endroit, la terre saigne ». Alors comment voir ce que Guéhenno appelait ce ruissellement de sang? Et comment faire, lorsque nous ne sommes pas nous-mêmes acteurs directs de ces guerres, pour tenter d'empêcher le sang de couler? Depuis 1945, les sociétés occidentales sont caractérisées par trois phénomènes qui conditionnent leur rapport aux guerres lointaines. Le premier, c'est le contexte de paix dans lequel elles vivent. Sur le sol français de ces dernières années, on a parlé de guerre à deux reprises seulement. De façon tragique, d'une part, lors des attentats parisiens du 13 novembre 2015, lorsque les secours aux victimes ont impliqué la mise en œuvre d'une médecine dite de guerre. De façon plus farcesque, à mon avis, d'autre part, lorsque dans son discours du 16 mars 2020, inaugurant le grand confinement, le président de la République a répété à 6 reprises « Nous sommes en guerre ». Cependant, dans les deux cas, le pays n'était pas en guerre. Ce n'était pas nécessairement le cas des États, car c'est le deuxième phénomène remarquable. Une grande partie des États occidentaux font la guerre loin de leur territoire. Depuis la fin des guerres de décolonisation, ils mènent des opérations extérieures, plus ou moins visibles et plus ou moins contrôlées par l'Organisation des Nations Unies. Ces opérations se sont multipliées au lendemain de la chute du mur de Berlin, lorsque les conflits dits « périphériques » de la guerre froide ont fait place à des opérations de grande envergure, à commencer par les deux guerres du Golfe de 1990-91 et 2003. Même si ces opérations sont souvent insuffisamment débattues au sein des parlements ou dans les médias, comme ce fut le cas de l'opération Barkhane, lancée par la France au Sahel en 2013, ou de l'opération Aigle, lancée en Roumanie, en réaction au déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, ces opérations sont menées en notre nom. Nul ne devrait dès lors méconnaître la violence qui les accompagne. Et en réalité, et c'est le troisième phénomène remarquable, les sociétés occidentales, en paix, mais gouvernées par des États qui déploient des opérations extérieures, sont saturées d'images de guerre. On dit souvent qu'en ce domaine, un seuil a été franchi avec la guerre du Vietnam. De fait, non seulement la télévision a joué un rôle essentiel en la matière dès les années 60, mais par la suite, le Vietnam a alimenté des représentations de plus en plus violentes de la guerre, notamment au cinéma. Songeons à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en salle en 1979. Et ces images ont volontiers servi à un propos dénonciateur. En montrant les horreurs de la guerre, on invitait à y mettre fin. C'est tout particulièrement le cas depuis les lendemains de la guerre du Vietnam, lorsque les images de la guerre du Biafra ont été rendues responsables de l'avènement d'un nouvel âge de l'humanitaire, dont témoignerait l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières. Depuis les années 60 au moins, ces trois phénomènes ont souvent été objectivés. Dans les années 1990, le sociologue Luc Boltanski, indigné par l'absence d'intervention occidentale dans la Yougoslavie ravagée par la guerre, a ainsi poursuivi les réflexions d'Anna Arendt sur la politique de la pitié. Il s'est demandé comment les médias contemporains, tout en faisant ressentir ce qu'il appelait la souffrance à distance, ne mobilisaient pas vraiment les consciences et peinaient à engager l'action des gouvernements. Ce problème, il avait déjà été posé en 1967, lorsque le cinéaste Chris Marker avait réuni une équipe de réalisateurs pour sensibiliser l'opinion publique à la guerre du Vietnam. De façon éloquente, le film qui en était résulté s'intitulait « Loin du Vietnam ». Et dans la séquence qu'il avait mise en scène avec Marker, Alain René filmait un écrivain monologuant devant sa petite amie que René filmait de temps en temps en contre-champ, silencieuse. L'écrivain disait « C'est la première guerre de l'histoire que tout le monde peut voir en même temps ». Et il ajoutait en montrant un poste de télévision « Ça se passe dans un meuble ». Par l'intermédiaire du personnage de l'écrivain, René signalait que les images de la violence ne disent rien de la singularité des guerres qui les ont engendrées. Je cite, en essayant de prendre l'accent de Bernard Fresson, « qui était le comédien. Tiens, pendant la guerre du Pacifique, il y a eu un plan choc. Un Japonais brûlé au lance-flammes qui tendait la main vers la caméra, à Manille, je crois, un vrai symbole, toute l'horreur de la guerre. Depuis, on n'a pas cessé de le voir. Les monteurs le connaissent tellement bien qu'ils lui ont donné un petit nom gentil, ils l'appellent Gustave. Il a servi toutes les causes, ce brave. On l'a vu dans tous les films. On l'a vu représenter successivement l'impérialisme japonais victime de sa folie, les peuples asiatiques victimes de l'impérialisme blanc et l'homme éternel victime de la guerre éternelle. Comme il est nu, en flammes, il raccorde toujours. On dit, tiens, encore Gustave. On peut toujours montrer des massacres aux gens avec l'idée que ça les guérira de la guerre, mais on n'arrête pas d'en montrer. On les confond tous. On a l'impression que c'est le même plan, mis en boucle, qu'on nous présente tous les soirs, depuis 20 ans. Dans cette séquence, René s'interrogeait aussi sur les raisons qui font qu'on se scandalise des violences de telle guerre lointaine et pas de telle autre. Pourquoi s'indigner des atrocités commises au Vietnam et pas de celles commises au même moment au Yémen, au Kurdistan et au Soudan ? Je cite encore l'écrivain. C'est comme les cours de la bourse. Le Vietnam est coté au plus haut et le Kurde est un peu mou. Vous dites que vous êtes des côtés des victimes, mais ce n'est pas vrai. Vous les choisissez, vos victimes. Vous avez les victimes à la mode, celles qui vous arrangent. Personne ne peut porter toutes les morts injustes. Ce n'est pas humain. Mais si on se met à regarder pourquoi celle-ci, pas celle-là, leur revenu annuel, la couleur de leur peau, ah, on commence à trouver de drôles de choses en soi, au fond de soi, une ségrégation des morts, une lutte des classes des morts. Beaucoup d'entre nous pensent un peu la même chose aujourd'hui, que l'Ukraine est cotée au plus haut et que le Syrien est un peu mou. Et on s'interroge, est-ce que c'est à cause de l'éloignement ? Est-ce que c'est parce que certaines guerres se passent plus loin que d'autres ? Cependant, il suffit d'observer une carte à vol d'oiseau, Alep. C'est moins loin de Toulouse que Kharkiv. Alors, pour tenter de résoudre ce problème si actuel, il convient de bien le poser. Et pour cela, la meilleure façon de s'y prendre, c'est encore d'en faire l'histoire. Une histoire dans laquelle, à mon avis, le XIXe siècle, dont je suis bien davantage spécialiste que tout ce dont je viens de parler, a constitué un moment fondamental. Considérons ainsi les phénomènes apparus au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, lorsqu'ont été formulés pour la première fois l'indifférence politique et les moyens de la combattre. Dans le cadre de ce que Benjamin Constant a appelé la liberté des modernes, on théorisait à cette époque le système représentatif, c'est-à-dire la pratique consistant à élire, par un suffrage censitaire, des représentants du peuple. C'était à ces représentants du peuple que revenait, pendant le temps de leur mandat, la charge des affaires de l'État. À eux, donc, la responsabilité d'engager une action militaire lointaine s'il le fallait. Mais aux autres, en même temps, une forme de droit à l'indifférence. D'ailleurs, même la minorité riche et masculine qui jouissait du droit de vote pouvait, en toute légitimité, entre deux scrutins, se désintéresser des affaires du monde. Évidemment, la plupart n'en faisaient rien, puisque le système représentatif et la presse quotidienne naissante invitaient à prendre position sur les grands enjeux politiques. Dans la mesure où l'avis des citoyens n'était requis dans le meilleur des cas qu'à intervalles réguliers, ces derniers ont inventé, à cette époque, les moyens pour faire pression sur les représentants élus. Le combat pour l'abolition de la traite et de l'esclavage est exemplaire de cette modernité. À partir des années 1780, les abolitionnistes, d'abord britanniques, se sont organisés en société. Ils ont multiplié les actions de porte-à-porte, les conférences, les réunions. Ils ont diffusé des livres, des brochures, des tracts, des journaux, des images, des objets. Ils ont suscité d'innombrables pétitions. En demandant aux partisans de l'abolition de cesser de consommer le sucre et le rhum produits dans les plantations outre-mer, ils ont même inventé une pratique originale de mobilisation qu'on allait finir par appeler le boycott. Ils ont essayé tout à la fois de sensibiliser le public aux souffrances des populations réduites en esclavage, en insistant notamment sur les terribles conditions de la traversée de l'Atlantique, et d'apporter la preuve des atrocités qu'ils dénonçaient. Même s'il n'est pas question de prétendre que la société britannique dans son entier fut concernée par l'abolition de la traite et de l'esclavage, la définition de l'opinion publique a alors commencé à se transformer. Ce qui était désigné comme opinion publique n'était plus limité à l'élite éclairée des journaux et des salons, mais tendait à se confondre avec l'ensemble de la nation. Le phénomène était loin de se cantonner à ceux qui jouissaient du droit de vote, comme l'a montré l'historienne Claire Midget, c'est à l'occasion de la campagne abolitionniste que, dans le cadre libéral, les femmes ont joué pour la première fois un rôle politique majeur. Les principes de la mobilisation de l'opinion était nettement formulée. Il s'agissait de faire pression sur les institutions parlementaires afin que celles-ci abolissent la traite, ce qui fut fait en 1807, puis l'esclavage dans les colonies britanniques, ce qui fut fait en 1833, puis l'esclavage ailleurs, ce qui fut fait dans les colonies françaises en 1848. Ça impliquait des opérations de guerre. Dans les années 1840, l'escadre chargée de lutter militairement contre les traitants dans l'océan Atlantique regroupait entre un sixième et un quart des bâtiments de la puissante navire britannique. En établissant un consensus autour de l'idée de campagne militaire menée au loin, au nom de la liberté et de l'humanité, en redéfinissant l'opinion publique, désormais élargie à l'ensemble de la nation, en inventant des modes d'action appropriés, depuis la pétition jusqu'au boycott, en mettant au point un discours de sensibilisation mêlant l'appel aux émotions du public et la présentation des preuves des atrocités, les abolitionnistes ont donc contribué de façon décisive à créer un État social qui allait fixer pour longtemps le cadre de l'histoire des opinions publiques européennes face aux guerres lointaines. C'est dans ce cadre en particulier qu'a été pensée, comprise et ressentie la guerre d'indépendance grecque. Vous vous souvenez peut-être qu'au printemps de 1820, les patriotes grecs ont déclenché une insurrection dans le Péloponnèse pour réclamer l'indépendance de leur nation. En Europe, leur cause a été extraordinairement consensuelle. Ceux qui la soutenaient, qu'on appelait les philhellènes, pouvaient y voir une insurrection conduite aussi bien au nom de la liberté contre le despotisme qu'au nom de la chrétienté contre l'islam. Les appels à aider les Grecs venaient aussi bien des libéraux que des traditionnalistes, du côté gauche que du côté droit des enceintes parlementaires. Ces appels à l'opinion publique étaient d'autant plus nécessaires que les gouvernements ne voulaient pas intervenir. Pour les États continentaux, hostiles aux idées libérales, l'indépendance grecque, si elle advenait, risquait de constituer un dangereux précédent, à même de susciter les revendications de leur propre minorité nationale. Quant à la Grande-Bretagne, sa politique libérale était tempérée par la nécessité de protéger la route des Indes, ce qui impliquait de ne pas déstabiliser l'Empire ottoman. Les philhellènes ont donc repris les méthodes des partisans de l'abolition de la traite et de l'esclavage pour faire pression sur les gouvernements. Ils ont créé des comités qui ont organisé des rassemblements, multiplié les publications et diffusé d'innombrables images et objets. Comme les abolitionnistes, ils se sont efforcés de montrer les atrocités subies par les victimes grecques. En 1826, la guerre d'indépendance grecque a connu un tournant décisif lorsque la Grande-Bretagne et la Russie ont conclu un protocole à laquelle la France s'est ralliée, qui a abouti à un traité l'année suivante. Le 22 septembre 1827, sans qu'aucune guerre soit déclarée, leurs escadres de Méditerranée ont détruit la plus grande partie des flottes ottomanes et égyptiennes réunies dans la baie de Navarin, en vue d'une attaque décisive contre les dernières places fortes grecques. L'indépendance grecque était désormais envisageable, elle a été actée en 1830. Or, cette bataille de Navarin a bientôt été considérée comme la preuve du nouveau pouvoir de l'opinion publique. Essentielle dans le sort de l'insurrection grecque, elle a été présentée comme le résultat de la menace faite au gouvernement. Pour le dire comme le poète français Pierre Lebrun, Navarin proclamait, je le cite, « une ère nouvelle » et l'avènement triomphal de cette puissante opinion publique assise au-dessus des trônes, vraiment reine pour la première fois. On peut évidemment s'amuser de ces envolées lyriques. Les causes de l'intervention militaire de la Grande-Bretagne et de la Russie avaient bien d'autres raisons que la pression d'une opinion publique dont le tsar en particulier se moquait éperdument. Pour le gouvernement de Londres, la crainte de voir la Russie profiter de la faiblesse ottomane pour s'avancer vers les détroits et menacer l'hégémonie maritime britannique en Méditerranée orientale a été une motivation bien plus importante. Il n'empêche, dans l'ordre du discours sur les guerres lointaines, la cause grecque et la bataille de Navarin ont constitué l'acte de baptême de l'opinion publique moderne. À partir de 1860, la guerre d'indépendance grecque a fourni un précédent souvent invoqué dès lors qu'il s'agissait de penser les modalités des interventions militaires européennes outre-mer. Vous vous souvenez peut-être que cette année-là, des milliers de chrétiens maronites étaient assassinés au Liban et en Syrie par des musulmans druzes. À la demande du sultan de Constantinople, qui avait été intégré au Conseil européen depuis la fin de la guerre de Crimée, les puissances européennes ont signé une convention avec l'Empire ottoman, stipulant l'envoi d'un corps expéditionnaire en Syrie pour rétablir l'ordre. Ce corps expéditionnaire n'a pas vraiment conduit d'action de guerre, son action n'en a pas moins constitué un événement fondateur. Bien qu'il n'était composé que de soldats français, il devait initialement réunir, selon les termes de la convention signée avec l'Empire ottoman, des troupes européennes. L'opération était présentée comme désintéressée. Pour le dire comme Napoléon III, les soldats ne partaient pas sur une terre lointaine pour faire la guerre à une autre puissance et obtenir des avantages pour leur pays, mais, je cite Napoléon III, pour aider le sultan à faire rentrer dans l'obéissance des sujets aveuglés par un fanatisme d'un autre siècle. Cette expédition française en Syrie, entre mars et juillet 1860, a ainsi eu pour conséquence la première formulation juridique du droit d'ingérence, ou plutôt, pour le dire avec les mots de l'époque, de l'intervention d'humanité. En Europe, une soixantaine de monographies et d'articles ont été publiés sur cette question entre le retour de Syrie et la Première Guerre mondiale. Leurs auteurs étaient le plus souvent des juristes, souvent français et belges, dont les réflexions s'appuyaient sur des exemples presque toujours empruntés à la question d'Orient et à la guerre d'indépendance grecque. Ceux qui défendaient la légitimité des interventions d'humanité ont tous rappelé que, comme dans le cas de la Syrie et de la bataille de Navarin, la décision d'intervenir devait être prise collectivement par les États afin d'en garantir le désintéressement. La notion a pourtant été beaucoup attaquée. En 1863, le juriste français Laurent Basile Hautefeuille estimait ainsi que le droit d'intervention n'était au fond que la consécration du droit du plus fort. Il s'amusait, je le cite, « de ce que jamais on ne verra la Hollande, l'Espagne ou tout autre pays venir critiquer la conduite intérieure de la Grande-Bretagne, s'apitoyer sur le sort de l'Irlande, sur les malheurs de ses habitants et au nom de l'humanité entrer en armes dans cette île pour la franchir du joug qui pèse sur elle depuis si longtemps ». Analysant la bataille de Navarin, il observait de la même façon que dans cette opération si ardemment voulue par les Philhellènes, je le cite, « le but réel de l'Angleterre était d'augmenter son influence morale et commerciale dans le bassin oriental de la Méditerranée en créant un petit État toujours facilement gouverné par les conseils d'une nation puissante. » Quel que soit le cas, il lui semblait difficile de trouver dans les exemples historiques une décision collective qui ne fût pas celle des États les plus puissants et un désintéressement qui ne fût pas le masque d'ambition assez mal caché. De tels débats ont été récurrents dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils se sont répétés lors de l'insurrection de la Crète en 1866, lors de l'insurrection de la Bulgarie en 1876. Chaque fois, les chancelleries et les journaux ont débattu de la justification d'une intervention d'humanité afin de secourir des peuples opprimés. Chaque fois, ont montré des massacres pour tenter de convaincre les opinions publiques du bien fondé de l'intervention à venir. C'est à l'occasion des insurrections crétoises et bulgares que sont notamment apparus les terribles Bachibouzouk, ces combattants irréguliers de l'Empire ottoman qui ont incarné durablement l'abomination de la répression. Chaque fois, néanmoins, les puissances européennes ont renoncé à intervenir. On notera aussi que chaque fois, la question n'était posée que pour défendre des minorités chrétiennes opprimées par un État musulman. On notera enfin que chaque fois, le débat sur l'intervention d'humanité posait la question de savoir s'il était légitime de déclencher la guerre au nom de la paix. Et puisque notre réunion est placée sous l'autorité morale de Jean Jaurès, je rappellerai pour finir que celui-ci, dans un magnifique discours à l'Assemblée nationale, le 3 novembre 1896, au moment des grands massacres d'Arménie, a réclamé la guerre au nom même de la paix, puisque, comme il le disait à propos de la situation dans l'Arménie ottomane, je cite Jaurès, « ce n'est pas une paix que cette paix sanglante, c'est la caricature de la paix, c'est la forme la plus odieuse de la guerre. » Depuis le mythe de la bataille de Navarin, en réalité, on n'en sort pas. Face aux guerres lointaines, est-il légitime de déclencher d'autres violences armées dans le but de rétablir la paix ? Les choses ont évidemment bien changé depuis le XIXe siècle où l'ONU n'existait pas et où le discours sur l'établissement de la paix n'a, par la force, a servi, ne l'oublions pas, l'impérialisme européen. Mais enfin, il me semble qu'il n'est pas inutile de se souvenir de cette histoire longue pour essayer de comprendre, par-delà leur singularité, les guerres lointaines qui aujourd'hui, selon les cas, comme le disaient Chris Marker et Alain René, nous sidèrent ou nous indiffèrent. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Effectivement, passionnant, et nous allons avoir certainement beaucoup de questions. Il nous a paru de bonne méthode de procéder aux quatre interventions et de faire une discussion globale. Sinon, nous risquerions d'être pris un peu au piège, justement, des discussions sur chacune des interventions.
Même audio. Une mémoire sonore ?